pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est une aberration qui ne va pas pouvoir durer longtemps. L'essentiel des îles du monde importe leur alimentation au lieu de la produire. Hawaï, 50e état américain perdu au cœur du Pacifique, ne fait pas exception. Mais sur l'île de Kauai, au nord de l'archipel, des citoyens s'organisent depuis les années 70 pour maintenir les savoirs traditionnels. Les pêcheurs, les forestiers et les fermiers travaillent ensemble et transmettent aux plus jeunes. Un reportage que vous découvrirez tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
La 22e conférence des Nations Unies sur le climat a ouvert ses portes lundi dernier à Marrakech. Il y a les négociations officielles entre les représentants de 193 pays d'un côté et autour des milliers de personnes venues du monde entier pour échanger sur les solutions concrètes pour limiter le réchauffement du climat. Au cœur de l'ancienne Médina, l'association marocaine Zéro Sbel, Zéro Poubelle en arabe, a installé la Climate Open Zone, un espace de débat et de sensibilisation accessible à tous. C'est un reportage de Sarah Doublier.
Atelier pochoir pour finaliser la fresque du festival. Les enfants du quartier populaire de Sidi Bou Hammer, nichés au cœur de l'ancienne médina de Marrakech, ont difficilement accepté que ce parc public à l'abandon et réhabilité pour l'occasion soit investi par les membres de l'association. Après de nombreux va-et-vient, ils prennent finalement part aux activités. Mamoun Relab, membre de l'association Zéro Sbel, se démène pour que les dangers du réchauffement de la planète soient compris des Marocains. Pour lui, il fallait qu'il y ait un événement accompagnant localement la COP22 qui puisse être accessible à tous.
Pour nous, c'était important d'organiser ce festival dans la ville de Marrakech et là particulièrement dans l'ancienne Médina, parce qu'on voulait créer du contenu et créer un espace qui soit accessible à tous. Il y a beaucoup la plupart des jeunes de ce quartier ne feront jamais l'effort d'aller jusqu'à la COP22. Il n'y a pas eu assez de communication. Peut-être aussi le côté officiel de la COP22 peut faire que certaines personnes sont réticentes à y aller. Et alors ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer du contenu sympa, frais, jeune, détendu, pour que tout le monde puisse juste en passant devant le jardin se dire tiens je vais rentrer et qu'on les touche avec des messages de sensibilisation sur le changement climatique mais aussi sur l'environnement et la citoyenneté en général.
Qu'est-ce que vous creusez là ?
Là on est en train de creuser une butte. La culture sur butte, c'est une technique qui était utilisé par les Mayas il y a 5000 ans. Alors l'objectif de cette butte est de cultiver la durabilité, c'est-à-dire laisser la nature faire son travail tout seul, sans l'intervention de l'homme. D'où le concept permaculture. Alors, on a commencé par faire un trou de, on va dire, 40 cm. Après, nous allons commencer par étaler une première couche de bois. Pourquoi le bois ? Parce que c'est le bois qui va absorber l'eau et du coup, même sans l'intervention de l'homme, cette butte, l'humidité qui va être dans le bois, elle va arroser ou bien nourrir les plantes, les récoltes qu'on va faire. Dans chaque phase, il va y avoir un type de légumes. La permaculture, ou bien enfin, le concept de permaculture en général, nous laisse préserver la terre, ce qui est le cas contraire par rapport à la monoculture. Dans cette monoculture, on perd au niveau de la terre plus qu'on produit, c'est-à-dire on tue un peu la terre. Mais ici non, la terre elle reste fertile, on va utiliser de la compost. C'est-à-dire quand on prend quelque chose de la terre, de la nature, on rend ce qui appartient à la nature.
Taha Aitamine a 23 ans, il est président de l'association Horizon qui promeut la permaculture. En face de lui, Fatemzara Belasri essaye de venir à bout d'un clou planté dans une palette destinée à la butte.
Là, je suis juste en train d'essayer de démonter le bois, puisqu'on n'a pas de bois usé, du coup on utilise ce bois-là. Et puisqu'il y a un petit peu de fer, je suis obligée d'enlever les clous. Avant de commencer à travailler sur le terrain, on forme les enfants. On forme les enfants à tout ce qui est permaculture, tout ce qui est écologie, développement durable, tout ça. Du coup, à un moment, tu te retrouves avec des enfants qui, en fait, quand on est avec eux à l'école, il y a des visiteurs qui viennent voir ce qui se passe sur le terrain. En fait, ce n'est pas nous qui prennent la parole, c'est plutôt les enfants qui expliquent. Et du coup, des fois, tu te retrouves en train de rater une petite partie du process et il y a les enfants qui te rattrapent et qui te corrigent. Et ça fait vraiment plaisir parce que tu te dis, au moins, ce que je fais, je ne le garde pas pour moi, je le partage et pas avec n'importe qui, avec les enfants. Et les enfants, à leur tour, ils partagent ça avec leurs parents. Donc ça fait tout un cycle de biodiversité aussi.
Composée d'une équipe d'une quarantaine de membres, l'association Horizon a monté depuis 2 ans une école verte dans leur ville natale de la région de Casablanca, Mohamedia. Principal projet, faire pratiquer la permaculture par les élèves.
D'accord.
Et je tape comme ça pour que ça rentre.
De son côté, à l'entrée du jardin, une jeune fille arborant un foulard fleuri à toute l'attention d'un couple de touristes.
Et tous nos produits sont faits à partir de chutes d'industrie textile.
Fadwa, âgée de 21 ans, explique comment tisser un tapis boucherouite de tradition berbère.
Alors vous nouez à l'extrémité, c'est ça ?
Partout.
Partout.
Ouais.
Membre d'une communauté de porteurs de projets, cette étudiante en biologie est à la tête d'une petite entreprise éco-responsable qu'elle compte bien faire prospérer.
Puis on le reprend et on le fait rentrer ici par la moitié. C'est 100% marocain. C'est une technique que les Marocains utilisaient il y a très très longtemps pour se réchauffer. Ils n'avaient pas de quoi se réchauffer et de quoi réchauffer leurs animaux. Donc ils faisaient ça avec les vêtements de leurs enfants puisqu'ils n'avaient pas le choix. Et après ça, eh bien, ils cachaient avec le dos de leurs ânes ou ils mettaient ça par terre pour dormir, pour se coucher ou s'asseoir dessus. Notre matière première, c'est des chutes d'industrie textile. Notre matériel à 90% recyclé. Le bois que vous voyez ici, il est recyclé. Le fil, la laine avec laquelle on travaille, est faite à la main à partir de vêtements usés ou de laine que les usines jettent. Une partie de nos tapis est transformée en pochettes, en poufs, en coussinets, en sacs pour ordinateur ou sacs pour approvisionnement, comme ce que vous voyez par ici. Le fait que ce soit écolo donne un peu de succès. Le fait encore que ce soit des femmes qui ont des besoins sociaux fait marcher aussi. Et le fait encore qu'on soit de jeunes étudiantes à le faire le fait marcher aussi. À chaque fois qu'on allait à un village, on trouvait au moins une dizaine de femmes qui n'ont aucune source de revenus. Pourquoi ? Parce qu'au Maroc, ça ne marchait plus le boucherouette. Parce que la matière première était dégradée. En fait, ils utilisaient les vêtements usés de leurs enfants. Il y avait trop de couleurs que des patchworks et ça dérangeait les gens. Au Maroc, ça marchait plus. On a voulu prendre du tissu neuf, mais l'opportunité qu'on a saisie, c'est que les industries jettent du tissu neuf. Donc voilà, on a pris le tissu qui jette, les chutes, puis on a ramené à ces femmes et on leur donne des designs, on leur donne la matière première, le matériel, tout. Elles travaillent, elles sont payées mensuellement ou par semaine. Après nos cours, eh bien, il faut qu'on fasse quelque chose pour être utile. On a choisi d'impacter d'une manière durable notre environnement. Comment impacter de manière durable ? Ce n'est pas en faisant de la charité, mais c'est en créant des projets qui offrent des revenus aux gens et qui résolvent des problèmes sociaux. Des fois, c'est les étudiants, des fois, c'est les villageois, des fois, c'est ceux qui travaillent dans un secteur précis. Et eh bien, on leur demande, ils commencent à parler, on fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. En ce moment-là, les gens ils commencent à nous aimer, donc ils commencent à nous raconter des choses un peu profondes. Et c'est là où on peut avoir des projets innovants qui répondent à leurs besoins et qui, en plus, offrent un revenu à d'autres personnes. En fait, si tu es dans la COP22, c'est que tu as vraiment fait un impact environnemental. C'est que ça existe. Donc voilà pourquoi c'est... Alors là, on aura plus de crédibilité encore sur le marché. Et ça aussi, c'est important.
Vous fermez à l'aide du bouton d'arrêt, comme ça, parce que vous pouvez l'ouvrir, le fermer, c'est adaptable. Et vous étouffez le plat, comme ça.
Et si je veux garder mon eau fraîche pendant une virée dans le désert, c'est la même chose.
Bien sûr, c'est un sac isotherme, donc il garde la froid, il garde la chaud.
De son côté, Othman Ben Klima a le verbe haut. Lui est là aussi pour défendre son innovation.
Donc je suis co-CEO et fondateur de l'entreprise Ecoheat. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'entreprise ? On fait la confection de sacs isothermes. Donc c'est quoi Ecoheat ? C'est un sac, c'est un éco-mijoteur non électrique qui permet de continuer la cuisson des plats précédemment portés à ébullition pendant quelques minutes. Donc, le principe est très simple. Vous préparez votre plat, vous le mettez à l'intérieur du sac, vous le mettez sur le feu d'abord pendant quelques minutes. Vous le mettez après à l'intérieur du sac, vous fermez, vous étouffez et vous laissez cuire pendant 3 à 4 heures. Donc ça réduit la consommation de gaz butane de 30%. Donc au lieu d'utiliser le gaz butane pendant 1 heure et demie pour laisser cuire, une heure et demie, vous pouvez juste amorcer le processus pendant 10, 20, 15 minutes. C'est inspiré d'un concept existant de thermodynamique, de rétention de chaleur à l'international. Et donc nous, ce que nous avons fait, c'est justement adapter le concept au concept marocain, justement pour que ça puisse s'écouler dans le marché marocain. Mais l'idée est là, elle existait depuis toujours. Les marmites en argile permettent ou bien adoptent le même principe de rétention de chaleur. Il fallait juste penser à... Parce que l'argile n'est pas forcément pratique pour les gens, parce que c'est un petit peu facilement endommageable et tout. Mais avec Ecoïde, il n'y a que du tissu, il n'y a que des matières isolantes. Donc voilà, ça coûte 175 dirhams, 15 euros.
Des startups Enactus et Espace Bidaya. On a 7 startups avec nous aujourd'hui qui interviennent dans plusieurs domaines. Vous allez avoir 1 minute 30 pour pitcher.
Ce jour-là, 6 startups marocaines venues de tout le pays sont invitées à présenter leurs projets. Le but, être le plus convaincant et simuler des questions pièges de possibles investisseurs. Et Kenza Benamour de l'association Zeros Bell est là pour motiver ces start-upers de l'environnement.
Quand vous faites cet exercice-là, notez les questions que le public vous pose, que le jury vous pose, parce que c'est souvent les questions qui vont revenir aux différentes compétitions et aux différentes sessions pitch. Donc notez-les bien, préparez-vous d'une compétition à l'autre sur ces questions-là, parce que bon, il y a des compétitions en tout cas dans lesquelles vous pouvez gagner de l'argent. Les compétitions servent aussi à développer votre réseau. Vous allez découvrir des partenaires potentiels, que ce soit des partenaires commerciaux, des partenaires financiers. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à assister à des grandes compétitions. Donc il faut être prêt pour pitcher devant ces gens-là, parce que pour le coup, là, vous avez 2 minutes. Et donc il faut être très, très percutant.
Nabil, cet ingénieur de formation qui a présenté un projet d'entreprise de valorisation des déchets, a été un peu bousculé et interpellé sur des questions techniques.
L'exercice, il est intéressant dans le sens, à chaque fois vous êtes en face d'un type de public. Donc c'est la première fois qu'on me donne une chemise pour challenger le côté de recyclage. Donc généralement on pose des questions sur le process, sur les clients, sur le commercial, sur la levée des fonds. Le projet en lui-même, c'est en la valorisation des déchets, principalement plastique, mais on n'exclut pas les autres déchets. Comme les chiffonniers, ils collectent. Donc ils collectent tout type de déchets, soit plastique, cartonné, métaux, etc. Donc ils seront pris en main par l'entreprise, soit en termes de salaire, soit en termes de caisse sociale, soit en termes d'encadrement, etc. C'est juste leur donner ce qu'ils méritent en termes de partage de richesses, au lieu que c'est les intermédiaires qui en profitent.
C'est d'être punchy et de faire passer rapidement les messages.
Car le principal challenge est de rendre ces projets éco- et socio-responsables rentables. Pour Kenza Benamour de l'association Zeros Bell, le profit de ces entreprises vertes marocaines sera le principal moteur pour qu'ils se lancent et poursuivent leur activité.
Il y a beaucoup d'innovations à faire dans tout ce qui est environnemental. Il ne faut pas non plus être uniquement dans le bénévolat. Soit on se met dans une logique associative et on se met dans une logique à but non lucratif, soit on se définit plutôt comme une entreprise et il n'y a pas de mal à faire du profit. Maintenant, c'est un profit qui est peut-être plus contrôlé, plus cadré, qui est plus orienté vers la redistribution, mais il faut faire du profit. Si on propose un produit où les gens vont voir de l'intérêt économique à l'utiliser parce que non seulement il a un impact positif sur l'environnement, mais qu'en plus il coûte peut-être moins cher et qu'il leur fait faire des économies en consommation d'électricité par exemple, ben, ils vont voir l'utilité à plus long terme. Et c'est en ça que justement l'entrepreneuriat est une solution, justement, peut-être à plus long terme que uniquement les actions associatives qui, pour moi, je pense, restent plutôt concentrées et efficaces pour tout ce qui est sensibilisation.
Tout au fond du jardin, une dizaine de jeunes gens s'activent pour la fabrication d'un skatepark entièrement recyclable. Ici, les palettes sont découpées pour confectionner des rampes de skate et ainsi démontrer que l'on peut fabriquer beaucoup de choses soi-même. Envahi par une myriade d'enfants venus s'initier au BMX ou encore au roller, Mohamed Amin Mouktamin, président de l'Association marocaine des sports extrêmes, estime que ces ateliers sont autant d'éducation au civisme et à l'environnement.
c'est une discipline avant tout. Et spécialement les jeunes marocains, ils ont beaucoup d'énergie, mais cette énergie, on veut l'utiliser dans quelque chose de positif. Et le fait qu'ils voient un président, ce n'est pas une cravate et un costume, c'est un président passionné qui est en train de leur construire leur propre module, ça, ils vont le prendre comme exemple. Sur demain ou après-demain, c'est eux qui vont l'aider à les fabriquer, parce qu'ils voient un exemple réel devant eux. On espère qu'ils vont nous prendre comme exemple et ils vont continuer qu'est-ce qu'on a commencé. Le fait qu'on ait on a une mission d'intégrer des mini-skateparks et des skateparks dans tous les parcs qu'on a au Maroc, ou quand tu es dans un skatepark devant la plage, automatiquement, tu as quelque chose à faire avec l'environnement, tu as des arbres autour de toi, il faut sensibiliser ces gens. On veut nos parcs et nos rues et nos quartiers et nos villes et notre pays qui soient propres toute l'année. On a beaucoup de parcs au Maroc, malheureusement, ils ne sont pas vraiment bien gérés, à la maintenance et tout ça. Nous, on a pris ça comme une opportunité. On ne veut pas que notre pays soit propre juste quand il y a un événement grandiose en majeur comme la COP 22. Mais c'est bien la COP 22, comme ça on la prend comme exemple et on fait la même chose dans toutes nos villes. Imaginez qu'on a la COP 22 toute l'année, tout au long de l'année.
Sous la tente Caïdal, les start-upers ont laissé place à des ingénieurs reconnus pour leur expérience réussie en matière d'énergie renouvelable. Ici, on débat des contraintes locales pour développer le secteur. Comment allier efficacité énergétique et développement ? Comment faire baisser les coûts d'installation des panneaux photovoltaïques ? Dans l'auditoire, des curieux mais aussi des jeunes soucieux de s'inspirer des expériences réussies, comme celle d'Abdessamat Khalidi, spécialisé en pompage solaire pour les exploitations, en faveur des agriculteurs marocains.
Le renouvelable tombe bien à pic pour les agriculteurs, parce qu'il permet d'éliminer la facture énergétique et du coup être plus rentable pour la ville. Donc le problème que nous avons trouvé au début, c'était le coût des installations photovoltaïques pour un pompage solaire. Donc ce coût dépendait justement des panneaux qui sont fabriqués en Europe ou en Asie, et puis des convertisseurs, ce qu'on appelle des équipements qui permettent de transformer le courant électrique des panneaux en un courant alternatif adapté au moteur des pompes. Donc là, nous avons pu utiliser des variateurs de vitesse qui sont utilisés dans l'industrie et qui ont des coûts très faibles, puisque ça existe depuis des années et que tout le monde utilise. On a pu les adapter à l'énergie solaire.
Qu'ils soient bardés de diplômes, prêts à se lancer dans l'économie verte ou encore au stade de l'école buissonnière, les jeunes Marocains sont les cibles premières de l'éco-festival de Marrakech. Mamoun Relab de l'association Zerosbel.
Avec les enfants, il faut vraiment commencer par le départ. Il faut leur faire faire plein d'activités qui les distraient, qui leur permettent de déverser toute l'énergie qu'ils ont, parce qu'ils sont vraiment pleins d'énergie, les gamins de ce quartier. Et en même temps, au passage, leur passer des messages sur le respect de l'environnement, l'économie de ressources, éviter le gaspillage, des messages simples comme ça. L'important, c'est de leur parler de choses qu'ils puissent mettre en œuvre dans leur quotidien. Si on rentre dans des détails trop techniques, dans des choses qui touchent à des mécanismes globaux, dès le départ, on les perd. Alors que si l'enfant ou le jeune repart d'ici avec une idée claire de « dès demain, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ma vie quotidienne ?», là, on a gagné, on a fait un pas en avant.
À l'heure de la COP22 marocaine, difficile d'insuffler dans les écoles les notions élémentaires de civisme et de préservation de l'environnement. En attendant de faire bouger les mentalités durablement, la Climate Open Zone finit sa journée par un timide retour au calme des enfants des rues de la Médina. Le silence se fait devant le film « Home » de Yann Arthus Bertrand, projeté sous la tente Caïdal du jardin Sidi Bouhammer de Marrakech.
Vous trouverez toutes les infos sur ce festival sur la page internet de l'émission. Restez sur RFI, juste après le flash d'info, nous vous emmènerons au milieu du Pacifique, sur une île de l'archipel de Hawaï, où une agriculture basée sur les savoirs traditionnels est en plein développement. A tout de suite.
Mmh.